Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1972 sous le titre original Crises of the Republic. Du mensonge à la violence réunit quatre essais de Hannah Arendt consacrés aux crises politiques des démocraties contemporaines. Philosophe allemande devenue citoyenne américaine, après avoir fui le nazisme, Arendt y confronte ses concepts à des événements proches de la guerre du Vietnam. La publication des Pentagon Papers, les mobilisations étudiantes, les luttes civiques et les débats sur la révolution. Le livre comprend du mensonge en politique, la désobéissance civile, sur la violence et politique et révolution. Il ne propose ni un programme partisan, ni une théorie abstraite détachée des faits. Son objectif est de distinguer des réalités souvent confondues, notamment pouvoir, violence, autorité, force et persuasion, afin de mieux juger les situations politiques. Arendt examine aussi la fragilité de la confiance publique lorsque les gouvernants organisent leur action autour de fictions et d'objectifs d'image. Le recueil reste une référence pour penser les conditions concrètes d'une liberté politique partagée. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les Pentagon Papers comme révélateurs du déni de réalité politique dans du mensonge en politique. Arendt part de la divulgation des Pentagon Papers en 1971 pour analyser les mensonges accumulés par les autorités américaines durant la guerre du Vietnam. Son intérêt ne se limite pas à établir que des responsables ont trompé le public. Elle cherche à comprendre comment une administration peut continuer une politique manifestement défaillante alors même que ses propres analyses en révèlent les impasses. Le problème central est le décalage entre les faits, les objectifs affichés et l'image que les décideurs veulent préserver du pays. Arendt décrit une fuite hors de la réalité où la gestion des représentations tend à l'emporter sur l'évaluation des conséquences réelles. La fabrication d'une image de puissance, de cohérence ou de crédibilité devient alors un objectif politique autonome. Cette logique enferme les dirigeants dans leur propre récit, car reconnaître l'erreur menacerait la façade construite devant les alliés, les adversaires et l'opinion. L'essai éclaire ainsi un risque spécifique des démocraties modernes lorsque l'information officielle devient un instrument de mise en scène. La décision publique perd les moyens de corriger ses erreurs. La question haine est donc pas seulement morale liée à la véracité. Mais institutionnelle et pratique, une politique incapable de recevoir les faits devient incapable d'agir lucidement. Deuxièmement, le mensonge politique et la vulnérabilité des vérités factuelles, Arendt ne soutient pas que toute parole politique serait mensongère, ni que le mensonge suffirait à expliquer la domination. Elle souligne plutôt que la politique entretient depuis longtemps un rapport particulier avec la tromperie, parce qu'elle porte sur un monde humain qui aurait souvent pu être différent. Le mensonge peut paraître plausible en proposant immédiatement une version des faits ajustée aux attentes d'un public. Mais cette plasticité devient dangereuse lorsqu'elle vise les vérités factuelles, c'est-à-dire les événements, les documents et les réalités vérifiables qui forment le monde commun. Sans un minimum d'accord sur ce qui s'est produit, le désaccord politique cesse d'être une confrontation entre jugements pour devenir une lutte entre réalités incompatibles. Arendt distingue ainsi la vérité rationnelle, issue par exemple de la démonstration, et la vérité de fait, plus exposée à l'effacement, à la sélection ou à la falsification. Cette dernière dépend de témoins, d'archives, d'institutions et d'un espace public capable de la faire circuler. L'enjeu n'est pas de soustraire la politique à toute interprétation, ce qui serait impossible, mais de préserver le sol factuel sur lequel des opinions divergentes peuvent se former. Le texte invite donc à examiner les récits officiels, non par cynisme systématique, mais pour défendre la capacité collective de juger. Troisièmement, la violence comme symptôme de l'impuissance du pouvoir. Sur la violence est connue pour la distinction ferme que Arendt établit entre pouvoir et violent. Le pouvoir ne désigne pas, chez elle, la simple capacité d'imposer une décision. Il naît lorsque des personnes agissent ensemble, se reconnaissent dans une action commune et maintiennent une forme d'accord. La violence, à l'inverse, est instrumentale, elle s'appuie sur des moyens matériels de contrainte et peut obtenir l'obéissance, mais elle ne crée pas par elle-même une adhésion durable. Cette distinction permet de comprendre pourquoi un gouvernement disposant d'armes de police ou d'une administration puissante peut néanmoins être politiquement fragile. Plus il doit recourir à la violence pour compenser l'absence de soutien, plus il révèle l'affaiblissement de son pouvoir. Arendt ne nie ni l'efficacité immédiate ni le rôle historique de la violence dans certains bouleversements. Elle refuse cependant de la glorifier comme une force créatrice automatique, contre des traditions révolutionnaires qu'elle discute notamment à travers Sorel et Fanon. La violence peut détruire des institutions ou ouvrir une rupture, mais elle ne fonde pas à elle seule un ordre politique libre. L'analyse des mouvements étudiants de son époque sert à préciser ce point, la colère face à l'injustice peut être compréhensible, sans que les moyens violents garantissent une issue démocratique. la question décisive reste celle de la constitution et de la conservation d'un pouvoir partagé. Quatrièmement, la désobéissance civile comme action collective dans l'espace public, dans la désobéissance civile. Arendt examine les conditions sous lesquelles le refus de se conformer à la loi peut devenir une action politique légitime plutôt qu'une simple infraction privée. Elle distingue notamment le désobéissant civil du criminel poursuivant un intérêt personnel et de l'objecteur de conscience guidé avant tout par une conviction morale individuelle. La désobéissance civile prend une dimension proprement politique lorsqu'elle est publique, concertée et orientée vers une injustice que les institutions ordinaires ne parviennent plus à corriger. Les références à Thoreau, Gandhi, Martin Luther King et aux mobilisations contre la guerre du Vietnam situent cette réflexion dans une histoire de contestation non réductible à la violence. Pour Arendt, l'existence de minorités organisées capables de manifester leur dissensus peut revitaliser une république, à condition que leur action reste liée à un monde commun et à la persuasion. Le problème est institutionnel autant qu'éthique. Une démocratie ne peut se contenter d'exiger l'obéissance lorsque des groupes entiers estiment que les canaux de représentation, de débat ou de réparation sont bloqués. Arendt ne transforme pas pour autant toute désobéissance en droit illimité. Elle met en évidence une tension durable entre stabilité juridique et liberté d'agir. Son apport est de penser la protestation collective comme un possible exercice de citoyenneté et non seulement comme une exception tolérée ou une menace à neutraliser. En dernier lieu, révolution, conseil et recherche d'une liberté politique effective, dans politique et révolution. Arendt prolonge sa réflexion sur les formes institutionnelles susceptibles de donner une réalité durable à la liberté. Elle compare des expériences américaines et européennes sans les réduire à une opposition nationale simpliste. Son interrogation porte sur le destin des révolutions, comment un moment d'action collective, où des citoyens découvrent leur capacité d'intervenir dans les affaires communes, peut-il éviter de se dissoudre dans la bureaucratie, la nécessité sociale ou la concentration du pouvoir. Arendt accorde une attention particulière aux formes de participation locale et aux conseils apparus dans plusieurs épisodes révolutionnaires. Ces expériences l'intéressent parce qu'elles font émerger des espaces où la parole, la délibération et l'initiative peuvent être exercées directement. Elles ne constituent pas chez elles une recette institutionnelle achevée, mais elles révèlent une exigence souvent négligée par les régimes représentatifs. La liberté ne se limite pas à être protégée dans sa vie privée ou à choisir périodiquement des représentants. Elle implique de pouvoir agir avec d'autres dans un espace public. Cette perspective permet aussi de comprendre sa réserve envers les révolutions absorbées par la seule question sociale. La lutte contre la misère est indispensable, mais elle ne remplace pas la fondation des institutions de liberté. L'essai met donc en lumière une difficulté persistante, bâtir un ordre assez stable pour durer, sans étouffer l'initiative citoyenne qui lui donne son sens. En conclusion, Du mensonge à la violence s'adresse aux lecteurs de philosophie politique, d'histoire contemporaine et de sciences sociales, mais aussi à toute personne qui cherche des critères précis pour interpréter les crises de confiance, les mobilisations collectives et les usages de la force par les États. Le recueil demande une lecture attentive. Arendt raisonne par distinction conceptuelle, référence historique et examen d'événements déterminés. Cet effort est cependant largement récompensé. Il fournit des outils pour ne pas confondre communication politique et réalité factuelle, coercition et pouvoir, indignation morale et action civique organisée, ou encore renversement d'un ordre et fondation d'une liberté durable. Son bénéfice intellectuel principal réside dans cette discipline du jugement. Plutôt que de livrer des slogans sur la démocratie, Arendt montre les tensions qui la traversent et les conditions fragiles de son fonctionnement. Le livre se distingue d'essais plus directement militants ou de commentaires centrés sur une actualité immédiate par sa capacité à relier des crises précises à des catégories durables. Les Pentagon Papers, la guerre du Vietnam et les mouvements des années 1960 ne sont pas de simples décors historiques, ils servent à éprouver des idées qui restent décisives pour comprendre la désinformation, la protestation et l'autorité. Cette alliance entre rigueur philosophique et attention aux faits fait de l'ouvrage une lecture particulièrement féconde, sans réduire les problèmes politiques à des réponses faciles. Si vous souhaitez soutenir Hannah Arendt, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.